France Culture.
Réplique, que reste-t-il du vivre ensemble avec Jérôme Fourquet et Pierre-Henri Tavoyot. Où j'ai grandi, il y avait des moments d'unité, des moments de confrontation et de longues plages d'indifférence où chacun vaquait à ses affaires. Mais on ne parlait pas de vivre ensemble. Alors je voudrais demander à mes deux invités, l'analyste politique Jérôme Fourquet, qui publie « Métamorphose française », et le philosophe Pierre-Henri Tavoyot, dont le dernier livre s'intitule « Voulons-nous encore vivre ensemble, s'ils savent de quand date l'apparition de ce syntagme dans la langue commune, Jérôme Fourquet.
D'après les recherches qu'on a pu mener, on a trouvé une première trace de cette expression dans un discours et dans une rhétorique de campagne de Françoise Gaspard, qui était maire socialiste de Dreux, ville qui est passée à la postérité, puisque c'est là où le Front National, lors d'une élection municipale partielle en 1983, a fait sa première percée électorale. Une ville de la grande périphérie francilienne qui avait connu une industrialisation tardive, d'où aussi l'arrivée d'une population immigrée importante dans cette ville, avec une ville qui était géographiquement très clivée entre des quartiers de grands ensembles et la ville historique. Et donc c'est là que le Front National, encore une fois, Jean-Pierre Sirbois, a percé pour la première fois. Et en face, la maire sortante socialiste, Françoise Gaspard, avait utilisé pour la première fois à notre connaissance cette expression de vivre ensemble pour essayer de faire un contre-discours à la rhétorique du Front National. Et donc le lieu et la date de l'émergence de cette notion sont assez révélateurs de notre point de vue.
Et elle s'est répandue assez vite, cette notion.
Et donc ensuite, c'était effectivement, ce terme ensuite est passé à la postérité, a été repris un peu partout. Mais la reprise de ce terme, la diffusion de ce terme, disent aussi, en creux, la transformation de notre société, des enjeux et du regard que nous portions sur cette société.
Pierre-Henri Tavoyot.
Oui, d'ailleurs, on voit dans les statistiques Google, maintenant, on dispose de cet instrument qui permet d'identifier les occurrences du terme. On voit effectivement qu'à partir des années 90, le terme est utilisé de plus en plus. Et il témoigne effectivement de cette vision, je dirais, à minima de la société, c'est-à-dire le fait que, voilà, pour faire société, peut-être même parfois pour faire peuple, il suffit de vivre ensemble. Ce qui est évidemment assez illusoire parce que on peut vivre ensemble dans l'indifférence, côte à côte, voire dans la conflictualité. À la limite, une guerre, c'est déjà aussi du vivre ensemble. Donc, comme disait Gérard Collomb, côte à côte ou face à face. Et donc, effectivement, c'est une vision un peu minimaliste qui nous sort du projet collectif, du désir et de la volonté de vivre ensemble.
Ah, c'est une vision minimaliste, dites-vous. Alors, cela étant, je voudrais vous citer une phrase que vous connaissez, bien sûr, tous les deux, un extrait de la conférence qu'Ernest Renan a prononcée à la Sorbonne en 1882. Qu'est-ce qu'une nation ? L'expression « vivre ensemble » n'apparaît pas, mais il y a quelque chose, quand même, qui peut beaucoup nous intéresser. Une nation est une âme, un principe spirituel, deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs. L'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu, indivis. L'homme, messieurs, ne s'improvise pas. Le désir de vivre ensemble. Ainsi, Renan définissait-il la nation. Pas seulement par là, parce que la culture, le riche legs de souvenirs, était aussi, c'était l'autre composante de la définition. Mais ma question, c'est l'expression de vivre ensemble, un peu panique en quelque sorte, ne signifie-t-elle pas que ce désir-là est aujourd'hui en question Et d'ailleurs, on peut même se demander si la France, la société française, constitue encore une communauté nationale. En tout cas, le désir de vivre ensemble, il est clair qu'il ne va plus de soi, Jérôme Fourquet.
Moi, je reviendrai d'abord sur le premier pilier qu'avait énoncé Ronan, un riche legs de souvenirs communs. Et donc, quand Ronan écrit ça, ou prononce ce discours, nous sommes à la fin du 19e, et nous sommes dans une société française qui est certes diverse régionalement, qui a déjà connu un enrichissement démographique avec l'apport de populations qui venaient de pays frontaliers. L'immigration belge, notamment, avait déjà commencé dans le nord de la France. Mais l'homogénéité culturelle et démographique du pays était beaucoup plus évidente qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est à la même époque que les fameux hussards noirs de la République ont fait réciter à des générations de petits Français nos ancêtres les Gaulois. Et donc, dans la société française contemporaine, aujourd'hui, cette réalité qui était vraie au XIXe siècle, ce riche legs d'histoire commune, va moins de soi. Donc c'est déjà un élément qui peut nous mettre sur la piste pour essayer de répondre à la deuxième question sur est-ce qu'il y a encore un sentiment d'appartenance commune et la volonté de faire nation. J'allais dire, c'est un travail politique et civique, beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus profond qu'il s'agit aujourd'hui d'accomplir que par le passé, parce que quasiment mécaniquement, tout cela va moins de soi qu'à l'époque.
Je disais tout à l'heure une vision minimaliste, effectivement, de la vie commune, c'est-à-dire réduire, au fond, le peuple à la société, ce qui est une conception vraiment minimale, de facto, d'ailleurs. On constate qu'il y a des gens qui vivent ensemble. C'est une première notion. Alors, c'est vrai que si on est dans une logique démocratique, il faut... Ça ne suffit pas. C'est très clair, ça ne suffit pas. C'est-à-dire le simple fait de cohabiter, si je puis dire, ne suffit pas. Il faut ce désir de vivre ensemble qui est incarné, en effet, par... J'allais dire le peuple-État, c'est-à-dire le peuple-État, c'est cette garantie d'une stabilité, stato hein, en italien, c'est-à-dire vraiment une stabilité avec en effet un passé, l'adhésion à des règles communes et une perspective effectivement d'un horizon commun. Il faut ces trois éléments. Et ça ne suffit pas encore. Il faut, au-delà de la société, au-delà de l'État, aussi quelque chose qui relève de l'espace public où on discute ensemble de la manière dont on veut vivre en commun. Donc il faut ces trois dimensions. Si on réduit la vie commune uniquement à la société, c'est clair, ça ne marchera pas. Donc de ce point de vue-là, l'effort à faire porter, c'est sur à la fois la reconnaissance de l'importance de l'État, alors que tout conspire pour s'en méfier, pour le détester, pour s'opposer, pour l'empêcher. Et puis par ailleurs, avec une certaine attention au fonctionnement de l'espace public, il faut qu'on soit très attentif à la délibération démocratique, à la conversation entre les sexes, à la conversation entre les citoyens, et aussi à l'espace public médiatique. Donc c'est un très gros effort de vivre en démocratie, il ne suffit pas d'être côte à côte.
Il ne suffit pas d'être côte à côte. Mais il me semble que ce désir de vivre ensemble, ce plébiscite de tous les jours, pour reprendre l'expression de Ronan, s'est exprimé avec force il y a 10 ans après la tuerie de Charlie Hebdo. Des millions de personnes sont descendues dans la rue. Et le slogan était « Je suis Charlie », avec tout ce que ça signifie. La liberté d'expression en France, gigantesque crayon brandi dans la rue par les manifestants, mais aussi « Je suis flic, je suis juif, je suis la République ». Face à la violence terrible de l'islamisme, les Français se sont réunis. Ils ont dit quelque chose d'eux-mêmes, de leur volonté. 10 ans ont passé, l'anniversaire a été commémoré un peu partout, mais où en est-on aujourd'hui de cette unité? S'est-elle confirmée ou s'est-elle au contraire lézardée, Jérôme Fourquet?
Ronan parlait d'un plébiscite de tous les jours, magnifique formule. Dans nos sociétés assez individualisées, assez hédonistes et consuméristes, nous n'avons, heureusement ou malheureusement, c'est selon, pas l'occasion d'organiser un plébiscite quotidien. Vous le disiez dans votre lancement, du temps de votre jeunesse, il se passait de longues périodes au cours desquelles chacun vaquait
à ses affaires.
À ses affaires. Et donc, on on vivait peut-être côte à côte ou ensemble, mais chacun vivait sa propre vie. Ce qui s'est passé au moment de Charlie, à mon avis, est très révélateur d'une crise paroxystique. Et on a vu, on a pu vérifier, à l'occasion de ce drame, que, si on veut utiliser une métaphore biologique, le corps social réagissait encore à l'unisson et en phase. Et donc, de ce point de vue-là, le résultat était assez rassurant, même si nous avions fait à l'époque des analyses qui valent ce qu'elles valent, puisqu'on avait repris les statistiques données par la presse locale et le ministère de l'Intérieur sur le nombre de manifestants par ville. On avait calculé un ratio de manifestants rapporté au nombre d'habitants. Et on avait ainsi observé que toutes les régions françaises ne s'étaient pas autant mobilisées et que notamment les régions du nord-est du pays s'étaient, au regard du nombre de manifestants rapportés à la population, moins mobilisées. Mais nous sommes dans des zones là-bas où le Rassemblement national est fort. Et ce mouvement et sa leader, Marine Le Pen, n'était pas invité à participer à l'hommage. Mais modulo ce point, on avait vu comment, lors d'un moment très paroxystique, le corps social français avait réagi à l'unisson et de manière quasi auto-organisée. Certes, les syndicats, les partis politiques, des associations de pensée avaient appelé à manifester, mais tout ça avait beaucoup procédé de l'auto-organisation. Beaucoup plus proche de nous, dans un contexte très différent. L'été dernier, dans un moment beaucoup plus joyeux, on a vu également comment le corps social français avait pu communier, là non plus, pas complètement homogènement, mais dans un moment de gaieté et de ferveur collective à l'occasion des Jeux Olympiques et notamment dans les premiers jours quand les athlètes français avaient ramené à la maison, alors ils jouent à domicile, un certain nombre de médailles. Et donc, sur ces deux moments très particuliers, qui ne sont pas les périodes de où chacun vaque à ses occupations, on voit quand même que dans des périodes particulières, et c'est heureux, le corps social français arrive encore de manière coordonnée et spontanée à ressentir dans la peine, la douleur ou la peur ou la joie les mêmes émotions. Et donc ça, c'est quand même pour moi un symptôme qu'il faut souligner et qui doit rassurer ceux qui s'inquiètent de l'état de la nation française.
Pierre-Henri Tavoyau.
On est dans une situation qui est toujours ambivalente sur ces questions. On a, disons, une intuition étayée pour les gens qui regardent la société, comme vous le faites, Jérôme Fourquet, étayée d'un bloc solide qui adhère à un projet collectif et qui se transmet et se caractérise dans les moments effectivement soit de communion nationale, soit souvent aussi les moments de crise. À certains égards, d'ailleurs, le Covid était un moment où, quand on y réfléchit aujourd'hui de très loin, le fait que la très grande majorité de la société ait accepté de se faire confiner reste quand même totalement surréaliste. Donc il y a quand même l'idée que dans les situations de crise, l'unité se fait. Mais de l'autre côté, et c'est ça qui nous inquiète constamment, c'est que du fait des réseaux sociaux, du fait des médias, il y a une chambre d'écho particulière à tous les discours qui sont des discours mais profondément diviseurs, profondément scandalisants, profondément opposants. Et ces discours-là qui témoignent du fait que, bon, par exemple, récemment, Aurélien Mélenchon qui dit que finalement, Charlie Hebdo, ils l'ont bien voulu parce qu'ils étaient islamophobes et parce qu'ils étaient néocoloniales. Ces discours-là nous inquiète. De la même manière, aussi la célébration de la mort de Jean-Marie Le Pen, place de la République, il y a quelques jours, festoiement général, enfin, il n'y a pas à faire l'éloge, mais en tout cas, de manifester dans la joie la mort d'un homme politique est quand même quelque chose d'assez sidérant. Donc, toute une série d'indices témoignent par ailleurs. Voilà. Et nous sommes dans cette ambivalence continuelle.
Un mot sur Aurélien Mélenchon, puisque vous l'avez cité. Il a écrit, en effet, Les derniers jours du Parti Socialiste, un livre très bien accueilli, il faut le souligner, par toute une partie de la presse, même celle qui, aujourd'hui, prétend honorer les victimes de Charlie. Or, la thèse du livre est très simple. Le printemps républicain, rebaptisé mouvement du 9 décembre, est accusé par Aurélien Mélenchon d'avoir fait passer la gauche à droite et d'avoir réintroduit le fascisme en France, sous l'égide de Laurent Bouvet, rebaptisé Grémond, qui est le mauvais génie de toute cette histoire. Et ce que dit aussi le livre, c'est que ce printemps républicain, ce mouvement du 9 décembre, a saisi les attentats du 7 janvier et puis du 13 novembre comme une occasion à ne pas laisser passer...
Une divine surprise.
Une divine surprise, une manière justement de faire de ces drames une opération de relations publiques. D'où l'étrange satisfaction ressentie par Grémond, c'est-à-dire Laurent Bouvet. Et Aurélien Bélanger, vous l'avez rappelé, a été invité l'autre jour lors de l'émission
C'est ce soir,
pour redire ses insanités contre Charlie Hebdo. Et pour dire aussi que, bien entendu, il n'était pas allé, lui, à la manifestation du 11 janvier. Donc, c'était quand même assez étrange, mais il est vrai que dans la déclinaison dominicale de cette émission, il y a quelques semaines, sont venus parler trois éminents chercheurs qui nous expliquaient que Boualem Sansal l'avait plus ou moins bien cherché, lui qui croupit dans les geôles algériennes, parce qu'il avait offensé le sentiment national algérien. Bien, mais en même temps, quand même, vous dites, Jérôme Fourquet, qu'on peut être un peu optimiste, ou en tout cas trouver une certaine forme de consolation à voir la France s'unifier dans des moments pareils. Lors de la mort de Charbes, Jean-Luc Mélenchon a prononcé une oraison funèbre où il disait « Charbes, tu as été assassiné par nos plus anciens, nos plus cruels, nos plus constants, nos plus bornés ennemis, les fanatiques religieux, crétins sanglants qui vocifèrent de tout temps. » Qu'est devenu Jean-Luc Mélenchon depuis lors? Il a basculé de l'autre côté. Il a basculé vraiment de l'autre côté, du côté, effectivement, de l'islam. Il incarne la propension islamo-gauchiste d'une partie de la France insoumise. Et pour un certain nombre de raisons, parce qu'il a, c'est lui-même qui a théorisé le concept de Nouvelle France. Une Nouvelle France a surgi. De cette Nouvelle France, il veut être le porte-parole et il voudrait qu'elle le porte lui-même au poste suprême, en quelque sorte. C'est avec l'Élysée en ligne de mire qu'il a opéré ce changement stratégique. Mais s'il y a une Nouvelle France, cela ne veut-il pas dire que, justement, à la différence de ce qui se passait encore à l'époque des Boomers, la lutte des classes est aujourd'hui passée au second rang et que nous vivons sous le règne de ce qu'on peut rappeler la fracture française. D'où, effectivement, la nostalgie du vivre ensemble. Jérôme Fourquet.
Plusieurs choses. Si vous revenez à la période des boomers, quand les boomers étaient jeunes, dans les années 50,
ça nous est arrivé.
Dans les années 50-60, la querelle politique était très vive. Et vous avez évoqué Jean-Luc Mélenchon. Dans le secteur de la gauche radicale, il y avait un parti politique qui s'appelait le Parti communiste, qui faisait 20 à 25% des voix, qui prenait un internationalisme pur et dur, dont toute une partie des cadres prenaient leurs instructions à Moscou. Et donc, vous voyez que, en disant, voilà, on serait passé d'une lutte des classes qui se déroulait en champ clos dans le cadre national, il faut regarder un peu les choses avec distance, parce qu'il y avait cette contestation très forte de ce cadre-là qui existait déjà à l'époque. Pour ce qui est de l'évolution de Jean-Luc Mélenchon, il a fait un constat très clair, et donc on peut dater là aussi un peu au carbone 14, le moment où la bascule s'est opérée sans doute dans sa tête, c'est quand en 2012, aux élections législatives qui font suite à sa première campagne présidentielle, il décide encore, selon un vieux schéma de la gauche radicale française, d'aller porter le fer et d'aller défier le Front National à l'époque, dans le bastion personnel de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, dans le bassin minier du Pas-de-Calais, pour essayer de lui contester son implantation. Et il se fait éliminer et il en tirera la conclusion que l'ancienne base sociale sur laquelle la gauche radicale avait toujours misé ses espoirs et fait porter ses efforts militants, à savoir la classe ouvrière traditionnelle, était aujourd'hui perdue pour la cause. Et donc, il fallait opérer un changement de focale. Et quelque part, c'est intéressant de voir que, de ce point de vue-là, Jean-Luc Mélenchon s'est retrouvé sur la même longueur d'onde que la fameuse note Terra Nova, qui disait qu'il fallait changer de logiciel et qu'aujourd'hui, l'avenir du camp progressiste, c'était la coalition arc-en-ciel. Donc, à la fois les minorités issues de l'émigration, les minorités sexuelles et également une minorité bien connue qui est les femmes, qui correspondent quand même à 52% de la population nationale. Il y a cette bascule qui s'opère, mais on peut étudier la trajectoire d'un Jean-Luc Mélenchon et de ce lieutenant. On peut mesurer aussi les effets électoraux de cette stratégie. Quand on regarde les résultats des élections européennes dernières ou de l'élection présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon ou la France insoumise, dans le cas des européennes, ont rassemblé les deux tiers des voix des électeurs qui se définissent comme étant de confession musulmane et qui sont allés voter lors de ces scrutins. Et donc, quand on regarde dans l'archipel français, comme je l'appelle, vous n'avez aucune autre île ou aucun îlot de l'archipel, donc un groupe social, culturel ou religieux, qui a voté aussi homogènement pour un candidat. D'où le fait d'avoir mis Rima Hassan en position éligible sur la liste aux européennes, d'où l'affaire du Kefier, etc., etc. Donc on voit bien que, on revient à notre vivre ensemble du début, oui, à Dreux, que cette ligne de fracture travaille en profondeur la société française. Toutefois, regardons néanmoins objectivement les choses. Et donc, on commémore Charlie Hebdo. Et il faut rappeler aussi la mémoire du policier qui est mort devant Charlie, qui s'appelait Ahmed Merabet, qui était abattu par les frères Kouachi. Il faut rappeler aussi la mémoire des trois parachutistes français qui sont morts sous les balles de Mohamed Merah à Montauban et à Toulouse, qui portaient eux aussi des prénoms et des noms qui rattachent leur famille à l'immigration maghrébine. Et donc on voit, on parlait de plébiscite de tous les jours, que de manière silencieuse, de manière invisible, toute une partie des enfants ou des petits-enfants de l'immigration, aujourd'hui, sont engagés dans un parcours peut-être plus que d'intégration, d'assimilation, et qu'ils n'aspirent qu'à une chose, c'est à l'invisibilisation de leur identité dans le creuset national. J'en finis juste d'un mot. Moi qui travaille sur la géographie électorale, il y a un grand maître en France qui s'appelle André Siegfried, qui a été rendu célèbre pour son analyse de la France de l'Ouest, le tableau politique de la France de l'Ouest, donc au début du XXe siècle. Mais il a créé un autre livre moins connu qui porte sur l'Ardèche. Il fait une géographie électorale de l'Ardèche. Et alors, ce département l'intéressait beaucoup parce que, contrairement à ce qui se passait dans l'Ouest, il n'y avait pas qu'une opposition entre des catholiques et des non-catholiques. Il y avait aussi beaucoup de protestants en Ardèche. Et donc, il montre que, lors de ce qu'il appelle d'élections de combat, le clivage de classe, paysan versus ouvrier, le clivage social, grand propriétaire contre petit propriétaire, le clivage géographique, ruraux contre urbains, s'efface totalement derrière le clivage religieux. Il montre comment, toutes les années du 19e siècle jusqu'aux années 30, en Ardèche, les vallées protestantes et les vallées catholiques, et au sein des mêmes vallées, villages catholiques et villages protestants, votent aux antipodes dans les élections de combat. Et donc on croyait qu'on avait oublié cela, puisque le phénomène religieux avait beaucoup décliné en France. Il revient, alors il faut le remettre à sa juste place, mais il prend toute son importance quand il est agi et actionné politiquement, comme le fait aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon dans un sens, et comme d'autres le font dans le sens inverse, je pense notamment à Éric Zemmour, où on antagonise, et quand on antagonise, on a les résultats qu'on observe.
Oui, enfin, ce n'est pas la même religion en même temps. C'est un facteur religieux avec une religion importée en France.
Tout à fait, mais on voit le poids
d'une immigration massive.
Comment elle s'impose en termes de facteurs explicatifs sur les autres variables sociologiques dans le vote.
Pierre-Henri Tabouillou.
Bon, j'ajoute juste un point, c'est qu'il y a souvent un point de la démocratie française qui est oublié, c'est que les circonscriptions en France sont calculées non pas par rapport au nombre d'inscrits, mais par rapport à la population. Ce qui fait que la population, y compris immigrée. Et donc ce qui fait qu'il y a, on pourrait tout à fait considérer qu'il y a une surreprésentation de la population immigrée au Parlement français parce que les députés sont... Et ça, c'est un calcul tout à fait rationnel que fait Jean-Luc Mélenchon. C'est en ciblant des circonscriptions qui sont des circonscriptions où le nombre d'inscrits est relativement limité par rapport à la population. Donc voilà, ce point de clivage est très important. Mais je trouve que ce qui est puissant, disons, l'analyse de notre société, c'est vraiment à la fois ce phénomène d'archipélisation, c'est-à-dire cette tendance à l'écartement et à l'éclatement, à des séparatismes multiples, pas forcément des séparatismes bloc contre bloc, comme on dit, mais toute une série, le bloc contre bloc existe dans les territoires, mais toute une série de séparatismes, et en même temps ce mouvement où on sent un élément d'unité. Et c'est ce point-là qui nous rend aujourd'hui incertains, c'est-à-dire les forces de déconstruction et les forces de reconstruction. Moi, ce que j'essaie d'analyser ou de montrer, non pas de manière sociologique dans le livre, mais en essayant de voir le type de réponse ou de récit que l'on peut avoir, c'est quels sont les éléments qui nous permettent d'envisager une reconfiguration, qu'est-ce qui tient, qu'est-ce qui se reconfigure, qu'est-ce qui persiste, qu'est-ce qui se reconstruit dans ces sociétés d'individus. Franchement, une société d'individus dans laquelle nous vivons, ça a tout d'un monstre, ça n'a aucune raison de marcher. Soit il y a de la société, il n'y a pas d'individus, soit il y a des individus, il n'y a pas de la société. Sauf si, et de ce point de vue-là, c'est assez grandiose, on envisage la société d'individus comme une société qui fabrique des individus, à condition que ces individus fabriquent de la société. C'est-à-dire qu'il y a un aller, on va dire, démocratique, où on fabrique, on produit de l'individualisme, oui, mais en ayant bien conscience que cet individualisme ne peut exister que si ces individus n'oublient pas qu'ils ont été aidés par d'autres à devenir des individus, et qu'ils ne peuvent en vérité devenir des individus que si ils aident des autres. Moi, j'appelle ça l'adulte, cet individu-là, c'est-à-dire à la fois celui qui crée comme individu et celui qui va fabriquer d'autres individus, donc aussi du lien social. Ce récit-là, il est concurrencé à la fois par le discours d'isolement très puissant et par le discours, effectivement, de guerre civile. Il me semble qu'il faut faire, et c'est tout l'intention du livre, faire réémerger ce discours du commun qui est, je crois, profondément inscrit dans nos existences individuelles et collectives, et de le faire réémerger comme étant un discours puissant, un horizon puissant et peut-être un discours aussi spirituel et civilisationnel.
Alors justement, comment faire pour que réémerge ce discours du commun, ce discours civilisationnel ? Je citais Charlie Hebdo. Je demande ce qu'il en est 10 ans après. Qui dirait encore « Je suis Charlie, flic, juif, je suis la République ». Je me pose la question, c'est pour cela que j'ai cité assez longuement l'évolution de Jean-Luc Mélenchon. Mais avant cet attentat, 10 ans avant cet attentat, il y a eu un rapport. Le rapport Aubin de l'inspection générale sur les signes et manifestations religieuses dans les établissements scolaires. Ce rapport était très alarmiste, puisqu'il nous expliquait que aujourd'hui, il n'y a pas seulement le problème du voile, les auteurs sont contestés à l'école. C'est-à-dire, on a beaucoup de mal, les professeurs ont beaucoup de mal à enseigner Voltaire, Rousseau, ou bien Madame Bovary, et le rapport disait, tout laisse à penser que dans certains quartiers, les élèves sont incités à se méfier de tout ce que les professeurs leur proposent, qui doit d'abord être un objet de suspicion, comme ce qu'ils trouvent à la cantine de leur assiette, et qu'ils sont engagés à trier les textes étudiés selon les mêmes catégories religieuses du halal et du haram. Mais depuis lors, Jean-Pierre Aubin a publié 2 livres, comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école, et plus récemment, les profs ont peur. Les profs ont peur. Donc, les choses n'ont fait qu'empirer. Il y a eu les assassinats de Samuel Paty, de Dominique Bernard, et il est vrai que beaucoup de professeurs, on le sait, se censurent, alors que l'école, c'est le lieu par excellence, du vivre ensemble au sens large, puisque c'est lieu de la transmission. La société n'est pas simplement une association des vivants, mais comme le disait Burke, des vivants et des morts, et de ceux qui sont encore à naître. Voilà. Donc, à l'école, les vivants entrent en contact avec les morts, et c'est rendu de plus en plus difficile. Alors je vous demande, où sont les signes d'espoir, Pierre-Henri Davoyaux?
Alors les signes d'espoir sont, me semble-t-il, de ce point de vue-là, dans le fait que la prise de conscience commence à arriver, et qu'au-delà de la prise de conscience, il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Je pense d'abord au premier chef, au plan de formation qu'a lancé Jean-Michel Blanquer donc en 2018, qui est un plan énorme de formation de la totalité des personnels de l'éducation nationale, et qui est un plan qui est en cours. Alors, il y a 2 types d'atteintes à la laïcité, au fond. Il y a les atteintes à la laïcité par négligence ou par ignorance. C'est-à-dire, on a oublié, parce que la question de la laïcité, pour beaucoup d'entre nous, d'ailleurs ici, était réglée. C'est-à-dire que, voilà, l'Église catholique était devenue laïque, si je puis dire. Et donc, cette laïcité de l'Église catholique faisait que l'unanimité était le surgissement, pas simplement de l'islam, mais de l'islamisme dans cette, je continue à faire la distinction, dans l'école, eh bien, effectivement, repose à nouveau frais cette question de la laïcité, et il faut la réinvestir, il faut se reformer, il faut se reconstituer. Ça, ce sont les atteintes, si je puis dire, les plus, disons, qu'on peut corriger le plus facilement, parce que il faut de la formation, il faut du bon sens. Je vous donne un exemple. Je suis référent de laïcité de la région Île-de-France, donc j'assiste aux formations des agents de la restauration. Un exemple, il y avait une personne de la restauration qui disait, nous, on a l'habitude d'organiser des journées thématiques pour la restauration, donc on fait une journée restauration antillaise, une journée couscous et une journée halal. Et alors évidemment, journée halal, ça va pas sur le plan de la laïcité. Mais après la formation, elle dit mais quelle bêtise j'ai faite. Quelle bêtise j'ai faite d'organiser ce... Je n'avais pas perçu que c'était un problème. Là, je le vois très bien. Donc, évidemment, je le referai plus. On peut faire des journées antillaises, mais pas des journées halal. C'est pas la même chose. Et puis, deuxième point, ce sont les attaques virulentes. Je rappelle que là, il faut être aveugle pour ne pas voir dans tous les textes de Daesh, de l'État islamique, d'Al-Qaïda, l'école est une cible, est une zone de guerre. Boko Haram voilà. En Afrique, ça signifie le livre impur. C'est-à-dire, l'éducation occidentale est un scandale. Nous devons la détruire. Il faut être aveugle pour ne pas lire ça. Et donc, face à cette offensive caractérisée qui consiste à dire nous devons maîtriser les âmes et nous devons, pour maîtriser les âmes, dénigrer systématiquement l'éducation démocratique, eh bien là, il faut agir très fermement. Et là encore, se donner les moyens de le faire.
Jérôme Fourquet.
L'IFOP a mené, depuis ces tristes événements, plusieurs enquêtes auprès des enseignants qui montraient qu'une part significative d'entre eux déclaraient ou avouaient s'être déjà plus ou moins régulièrement auto-censurés dans leur propre classe au moment d'aborder des sujets qui étaient un peu glissants ou un peu compliqués à aborder vu le public auquel ils avaient affaire. Et on comprend bien ce qui a été rappelé, que cette pression qui est mise sur l'école avec, c'est quand même stupéfiant, des décapitations et des assassinats d'enseignants en France, hein, c'est quelque chose qui historiquement... on n'a jamais connu, je pense, ne pouvait pas ne pas avoir marqué le corps enseignant, et que de ce point de vue-là, les terroristes islamistes ont marqué des points, c'est-à-dire que le terrorisme, c'est d'imposer sa volonté ou de faire évoluer les comportements par la peur, et donc là, ces cas ont frappé durablement et laisseront des traces, quoi que tout le monde en dise. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, la prise de conscience, mais à quel prix ? A été opéré, le retard à l'allumage a été immense, et l'appareil d'État, avec un gros morceau qui est l'éducation nationale, avec le rythme qui est le sien, a commencé à réagir, et c'est heureux. Mais c'est pas parce qu'on commence à réagir que le problème va être réglé et que la menace va être totalement éradiquée. Et on voit aussi comment l'attitude de certains, j'allais dire, maillons de base de l'éducation nationale a évolué au fil du temps avec la sortie du syndrome du pas de vague ou du réflexe du pas de vague qui, aujourd'hui, n'est plus entendable et n'est plus applicable. C'est-à-dire que vous êtes, Henri Tavoyau, référent laïcité, je pense que dans n'importe quel rectorat, quelqu'un qui pratique encore le pas de vague, à un échelon ou à un autre, quelqu'un va tirer aujourd'hui le signal d'alarme,
c'est tant mieux. Bien sûr. Alors, d'un autre côté, pour que l'assimilation revienne à l'ordre du jour, pour que la culture puisse, au nom de la laïcité, intégralement retrouver sa place dans l'éducation nationale, il faut aussi arriver à une certaine maîtrise des flux migratoires, vous serez d'accord avec moi. Et là encore, l'idéologie dominante ne facilite pas les choses. Vous êtes au courant de cette décision du Conseil constitutionnel de juillet 2018 qui a conféré une portée normative au principe de fraternité, principe au nom duquel le législateur ne peut plus ériger en délit, dès lors qu'elle poursuit des fins désintéressées, l'aide à la circulation des étrangers en situation irrégulière. C'est très important parce que là, la fraternité est brandie contre le vivre ensemble. Et le vivre ensemble est noyé dans l'idée d'humanité universelle. Il devient presque criminel de se séparer et de se préférer. Mmh. Ça rend les choses extraordinairement difficile dans cette entreprise de reconstruction que vous appelez de vos voeux, Pierre-Henri Tavoyau.
Oui, la fraternité a deux ennemis, c'est-à-dire la fraternité nationale a deux ennemis, c'est-à-dire à la fois ce qu'on peut appeler la fraternité universelle, qui n'est pas de l'ordre du droit, justement. Là, le Conseil constitutionnel, très clairement, est sorti de son rôle juridique pour entrer dans une... Il nous fait la morale, si je peux dire. C'est la charité chrétienne qui est en jeu. Et même, d'ailleurs, les chrétiens considèrent que c'est... Je pense à l'argumentation de Rémi Braque, qui dit, franchement, c'est pas au Conseil constitutionnel d'avoir ce type d'argumentation. Donc, premier ennemi, la fraternité universelle. Et puis, deuxième ennemi, les fréristes. C'est-à-dire les frères musulmans. On peut s'amuser par le jeu ici, d'une fraternité restreinte, réduite, hostile, et puis d'une fraternité tellement vaste qu'elle n'a plus aucune espèce d'efficacité.
Oui, alors, là, je voudrais aborder un autre problème, un autre défi au vivre ensemble. Je veux parler, justement, de la crise, là, pour le coup, de la civilité. Et là, notre génération des boomers doit plaider coupable. Jean-Jacques Rousseau disait, dans son premier discours, « Sans cesse la politesse exige, la bienséance ordonne, sans cesse on suit les usages et non son propre génie. » Nous avons voulu, notamment en 68, complètement inverser la proposition. Suivre son génie et pas les usages. C'était vraiment d'ailleurs la seule réussite véritable de 68. Le savoir-vivre à l'usage des générations, c'était le contraire même de ce qu'on appelait auparavant le savoir-vivre. Mais justement, force est de constater que notre propre génie n'est pas génial. Et avec cette absence de civilité, naît un problème qui est celui de la décivilisation. Comme, et je sais que le président de la République a risqué ce terme, et il a été, on lui a tapé sur les doigts. Mais il n'empêche que nous souffrons aujourd'hui de ce recul massif de la civilité. Alors, à quoi l'attribuez-vous, et comment faire pour remettre la civilité à l'ordre du jour des relations sociales? Jérôme Fourquet.
J'ai évoqué le terme de décivilisation, ou pour peut-être être plus précis, faudrait-il parler d'érosion du processus de civilisation. Alors, on peut dire qu'on joue avec les mots, mais quand on parle de processus de civilisation, on fait référence aux travaux du grand historien et sociologue Norbert Elias, qui avait justement travaillé sur l'émergence et la description de ces mécanismes civilisationnels dans l'Occident, donc du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, donc d'abord dans les sociétés de cour. Et donc, il décrivait très bien comment c'était mis en place, mais tout ça avait pris des générations et des générations, beaucoup de mécanismes qui avaient constitué à canaliser les pulsions, à faire en sorte que les individus apprennent à maîtriser leurs affects. Et donc, il a des pages magnifiques sur l'art de la table, comment on a introduit la fourchette à la cour des rois, puis comment la fourchette s'est ensuite diffusée, le mouchoir, l'hygiène corporelle, etc., etc. Donc tout ça sur un très très long terme. Et le sentiment qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que manifestement, ces mécanismes d'autocontrôle, de canalisation des pulsions, de mise à distance de la violence comme moyen de régulation des relations interpersonnelles, aujourd'hui, tout ça dysfonctionne ou est nettement moins efficace. Alors, on le voit de manière spectaculaire dans les atteintes aux physiques auxquelles sont exposés, par exemple, les membres des forces de l'ordre, mais on le voit aussi au quotidien vis-à-vis des professionnels de santé, vous le voyez dans les écoles, on le voit dans les transports en commun ou des altercations entre un chauffeur de bus ou un contrôleur et puis des usagers récalcitrants ou mal dégrossis. Et tout ça, comme on dit aujourd'hui, monte très rapidement dans les tours. Moi, je me suis amusé aussi à essayer de retracer l'histoire d'un autre terme qui se diffuse aujourd'hui dans le langage courant, c'est celui du pétage de plomb ou le pétage de câble. C'est ça, le pétage de plomb, c'est qu'il y a une surtension et les gens n'arrivent plus à prendre sur eux-mêmes et tout ça est extériorisé. Alors, c'est des mécanismes qui sont très profonds. Vous avez parlé de 68, mais on pourrait remonter à avant. Tout ça est lié, de mon point de vue, à la façon dont les enfants sont éduqués, mais avec l'enfant roi, puis ensuite le marché a pris la relève avec le client roi. C'est qu'il y a une enseigne célèbre de fast-food dont le slogan était Venez comme vous êtes. Donc, on va te faire des
parce que je le vaux bien, on pourra ajouter.
L'Oréal répond parce que vous le valez bien. Et donc, la sacralisation de l'enfant roi et du client roi, eh bien, aboutit à ce que les mécanismes d'autocontrôle qui font qu'on respecte la civilité, la façon de s'exprimer, etc., etc., tout ça va beaucoup moins de soi aujourd'hui qu'hier. Et comme le montrait Elias, quand plusieurs générations ont été éduquées et fabriquées, pour reprendre le terme de Pierre-Henri Tavoyau, avec ce nouveau moule, eh bien, au bout du bout, on a les phénomènes auxquels on assiste aujourd'hui.
Et auxquels on assiste aussi sur les réseaux sociaux, où la haine se donne libre cours, aucun processus, en effet, de contrôle. Alors le mot de décivilisation est mal vu aujourd'hui, alors vous citez bien sûr Norbert Lilias, mais Renaud Camus a écrit un livre, demeurant très intéressant, où il n'est absolument pas question du grand remplacement, d'ailleurs, intitulé « Décivilisation ». Ce qui fait que, effectivement, dès qu'on utilise ce terme, un certain nombre de vigilants montent dans les tours pour dire « Regardez, on voit où ça mène ». Bon, bien, mais alors justement, que faire face à un tel phénomène ?
Je pense que le phénomène est ambivalent. Je serais un tout petit peu plus prudent sur cette question, parce que pour une part, la civilisation démocratique, on pourrait même dire qu'elle est la civilisation de la civilisation, c'est-à-dire de la civilité, parce qu'il y a eu un phénomène de pacification des mœurs extrêmement puissant, avec la logique d'égalité, c'est-à-dire l'idée que tout le monde a le droit à des égards. Hein, Lévinas le disait, la politesse, la formule de la politesse, c'est « après vous ». Donc effectivement, après vous, quand les gens sont supérieurs, mais on peut très bien dire « après vous », avec les gens sont égaux. Donc l'extension du domaine des égards est un élément de la logique démocratique. Mais de l'autre côté, c'est ça le paradoxe, c'est que c'est aussi un processus de déconstruction continuelle de la civilité. Pourquoi ? Parce que, eh bien effectivement, pourquoi dire après vous à des gens qui sont mes égaux ? Voilà, voilà, premier. Deuxièmement, plus profondément, alors je note aussi, j'aime beaucoup cette phrase sur le blog de Jean-Luc Mélenchon, « Les leçons de bonne manière sont l'arme traditionnelle des partisans de l'ordre établi pour établir leur préséance de classe. » Donc, considérer que la civilité, c'est de l'ancien régime. Ce que disait d'ailleurs très bien Saint-Just, « La grossièreté, c'est une sorte de résistance à l'oppression. » Donc, c'est un processus démocratique de déconstruction de la civilité, accentué par le fait, alors là, cette fois-ci, très bien vu par Marx, que de la logique de l'innovation permanente va à l'encontre de la civilité, parce que la civilité a besoin du temps, a besoin de se poser, a besoin qu'on se mette d'accord sur les mœurs, il faut des habitudes. Et puis troisièmement, troisième élément de cette décivilité, c'est le droit. C'est la montée en puissance du droit, c'est-à-dire l'idée que le droit doit prendre la place justement des bonnes manières. Et qu'au fond, il ne faut pas résoudre les questions à l'amiable, il faut tout de suite appeler la police, l'avocat et faire un procès. Donc ces trois éléments contribuent du site décivilité. Mais je ne mettrai malgré tout une nuance sur ce processus de décivilisation, c'est que les incivilités continuent de choquer. Voilà, ça scandalise tout le monde. Et donc, de ce point de vue-là, on serait dans un processus de décivilisation si tout le monde considérait ça avec indifférence. Alors, on peut tous commettre des incivilités, certains d'autres plus que d'autres, mais le regard sur l'incivilité est un regard qui reste un regard de réprobation. Donc, de ce point de vue-là, il reste un peu d'inhibition dans notre société contemporaine à l'égard des incivilités. C'est peut-être un mince, mais signe d'espoir. Le pessimisme à l'égard de la civilité est peut-être un signe d'espoir. Moi, me rend plutôt optimiste parce que ça veut dire qu'on n'a pas lâché.
Oui, mais il y a un problème qui est effectivement non seulement celui de l'école, mais celui de l'éducation. Vous avez parlé de l'enfant roi, Jérôme Fourquet. Et en effet, on a le sentiment que, à la fois, l'individualisme, le progrès de l'individualisme et le progrès de la technologie renforcent le règne de l'enfant. L'enfant, on l'éduquait, on le faisait entrer dans un monde plus vieux que lui, excusez Anna Arendt, c'était un nouveau venu sur la Terre, mais ce monde plus vieux, l'enfant est souvent incité à le regarder de haut, parce que il a un accès, notamment aux nouvelles technologies, beaucoup plus facile que les adultes, sans compter les boomers, c'est-à-dire les grands-parents et bientôt les arrière-grands-parents. Ceux-là, leur cas est pendable. Nous vivons dans le monde de ce que Michel Serres émerveillé appelait « petite poussette ». Petite poussette avec ses doigts, elle est beaucoup plus habile que les grandes personnes. Donc, grandir et faire grandir, dites-vous, ça devrait être la devise de notre monde, la devise du vivre ensemble, mais effectivement, les grands passent en quelque sorte, avec les nouvelles technologies, un mauvais quart d'heure. On les regarde d'un air un peu narquois et l'éducation se fait de plus en plus difficilement, Jérôme Fourquet.
Alors, oui, oui, sans doute, mais on a déjà connu d'autres périodes de rupture technologique, alors peut-être pas aussi, aussi puissantes, au cours desquelles les jeunes générations jetaient déjà un regard narquois sur celles qui les avaient... celles qui les avaient précédées, mais on voit effectivement, si je fais un pas de côté sur les innovations technologiques et en quoi elles accompagnent le processus d'individualisation, regardez par exemple le développement des selfies, c'est quand même le narcissisme de masse, le selfie, la perche à selfie, la page Facebook, etc., etc., et donc, de la même manière qu'il y a le « venez comme vous êtes », il y a aussi le principe orwellien que chacun a le droit à son quart d'heure de célébrité. Vous citiez Marx tout à l'heure, si on relit un peu 68, on voit comment tout ça a marché de concert. C'est-à-dire que à la fois le changement de notre modèle économique, les transformations technologiques et l'évolution des mœurs et des valeurs ont abouti à la mise en avant de cet individu roi. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Pierre-Henri Tavoyot tout à l'heure sur le fait que l'incivilité, si elle est grossière, continue de choquer majoritairement, mais on n'en est pas fort heureusement arrivé au stade où tout le monde a basculé. Mmh. Mais le simple fait que ces phénomènes soient... le fait de minorités quand même assez nombreuses qui se croient autorisées à, déjà, c'est un signe que la règle commune n'est plus unanimement partagée. On pourrait prendre l'image du wagon de train dans lequel on revient à la technologie. Aujourd'hui, vous avez un ou deux passagers indélicats qui fait toute sa conversation avec ses proches au téléphone ou qui écoute sa série sur un écran sans écouteur. Il y a toujours encore un ou deux passagers courageux qui vient lui dire que on ne doit pas faire ça. Mais le fait est que il y a quelques années, personne ne se serait permis de se comporter de telle manière.
Là aussi, j'apporte un petit élément de, mais vraiment, je sans être dans le déni du tout, mais d'optimisme. Je fais un cours à mes étudiants depuis de très nombreuses années, depuis 1997 au moins, sur la question des âges de la vie et la thématique de l'enfant roi. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'au cours de cette évolution, disons qu'en 97-98, les étudiants étaient plutôt favorables à une éducation très favorable aux enfants. Alors qu'aujourd'hui, ils deviennent, franchement, j'utilise le mot, complètement réactionnaires, c'est-à-dire que l'enfant, il obéit et c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a une logique vraiment éducative, et la perspective de l'enfant roi les agace au plus haut point. Donc il me semble que le reflux des excès de 68 à cet égard est en cours auprès, y compris de la jeunesse. Donc ils ont subi les conséquences fâcheuses de cette affaire, ils sont pas forcément prêts à répéter l'opération. Donc voilà, un petit signe d'éléments optimistes, mais contrebalancés immédiatement par, effectivement, cette ultra-valorisation de l'individualisme, puisque je le vaux bien, eh bien, évidemment. Oui, l'exigence contemporaine morale, c'est « be yourself, soyez vous-même », il faut être clair, c'est soit je réussis, et dans ce cas-là, bah, je suis super et je suis dans le narcissisme, soit je ne réussis pas et dans ce cas-là, je suis déprimé. C'est un peu la fourchette, comme on dit aux échecs, de la situation contemporaine. Donc, et dans les deux cas, je me retire de la vie commune, c'est-à-dire je suis narcissique, tout puissant, donc je me fous des autres, ou je suis déprimé, ben je suis pas à la hauteur et je suis extrêmement triste. Donc cette tendance puissante qu'on appelle d'ailleurs épidémie de solitude à certains égards, soit par narcissisme, soit par la dépression, est un mouvement, alors là pour le coup, extrêmement fort de notre société contemporaine. C'est l'isolement habitationnel de l'habitation, les logiques de dépressives ou de fragilité de soi sont des faits qui sont extrêmement massifs et qui, eux aussi, témoignent d'une fragilisation de cette vie commune où, effectivement, on a cessé d'être ce qui est l'idéal. On le voit dans les enquêtes sur le travail. Hein. Le bien-être au travail, c'est avoir quelqu'un sur qui on peut compter, c'est-à-dire une relation de confiance avec son entourage professionnel, et être quelqu'un sur qui on peut compter. Ce sont les deux éléments qui témoignent du bien-être au travail. Au-delà même des questions du salaire, ces deux éléments sont constitutifs. Donc la vie commune au travail aussi existe de cette manière.
Bon, mais très bien. Nous terminons sur cette note légèrement optimiste. Je vous remercie Pierre-Henri Tavoyot, je vous remercie Jérôme Fourquet. Alors, je voudrais vous citer, pour finir, Pierre-Henri Tavoyot, puisque c'est référent laïcité de la région Île-de-France, une réflexion sur la laïcité de Saul Bellow. Il s'interrogeait sur le sens de l'expression « Wie Gott in Frankreich », comme Dieu en France, utilisée par les Juifs d'Europe centrale. Pourquoi heureux comme Dieu en France ? Saul Bellow, Dieu serait parfaitement heureux en France parce qu'il ne serait pas dérangé par les prières, rites, bénédictions et demandes d'interprétation de délicates questions diététiques. Environné d'incroyants, lui aussi pourrait se détendre le soir venu, tout comme des milliers de Parisiens dans leur café préféré. Peu de choses sont plus agréables, plus civilisées qu'une terrasse tranquille au crépuscule.
Magnifique.
Voilà, qui donne à réfléchir. Merci encore à vous deux. Pierre-Henri Tavoyot, je rappelle le titre de votre livre. Voulons-nous encore vivre ensemble, aux éditions Odile Jacob. Jérôme Fourquet, Métamorphose française, État de la France en infographie et en images, aux éditions du Seuil. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amard, à la réalisation Alexandra Malka, à la technique aujourd'hui Hélène Langlois. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Père et fils. Mes invités seront Frédéric Becbédé et Thibaut de Montaigu. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney.